Nous parlons ce matin des municipales 2026 dans les studios de Radio Royan-Vercors à Saint-Jean, mais avec un angle un petit peu particulier, celui du droit de vote des personnes en situation de handicap. Et pour cela, donc, on va s'intéresser à un établissement qui est bien connu sur le territoire du Royan, c'est l'association La Providence, qui est basée à Saint-Laurent-en-Royan et qui accompagne donc les personnes en situation de handicap de tous les âges, qu'il s'agisse de personnes âgées, d'adultes ou d'enfants. Et c'est la toute première fois cette année que les résidents de la Providence ont exercé leur droit de vote, donc à l'occasion de ces municipales. Et pour en parler au studio aujourd'hui, je suis en compagnie de quatre invités qui vont se présenter tour à tour, avec tout d'abord Alan Soulas. Bonjour.
Bonjour. Donc, je suis chef de service du secteur Habitat. Ça regroupe quatre établissements, un foyer de vie, un foyer d'hébergement, représenté par Oran aujourd'hui, un foyer d'appart et un SAVS, représenté par Olivier aujourd'hui, et un professionnel du foyer d'hébergement, par Bruno.
Voilà, donc je vais vous demander de vous présenter tour à tour. Il y a effectivement Olivier Ferrier qui est autour de la table. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors qui êtes-vous Olivier ?
Moi je travaille à l'ESAT à Châteauneuf-sur-Isère. Je suis en sous-traitance.
Ensuite nous avons Oran Ouyouk qui est là également.
Je travaillais avant le 13 décembre 2021, travaillais à Châteauneuf-sur-Isère. De quoi ça va changer de travail espavère. Après, de travailler avec cuisine, la professionnelle de cuisine, voilà.
Donc, on reviendra un peu plus en détail par la suite sur vos parcours à tous les deux. Donc, vous êtes tous les deux résidents de la Providence.
La Providence, voilà.
Et autour de la table, nous avons également Bruno qui travaille à la Providence. Bonjour, Bruno.
Bonjour, Anouchka. Je suis aide éducateur spécialisé sur le foyer d'hébergement de la Providence. Donc, j'accompagne les résidents dans leur quotidien.
Et Bruno, qui est, j'en profite pour le glisser, également bénévole à Radio Royan-Vercors et qui anime une émission régulièrement depuis combien d'années, Bruno, maintenant ?
1989,
ça commence à faire.
Ah bah oui.
Alors, pour commencer, nous allons d'abord échanger un petit peu avec Alan Soulas, donc le chef de service du service Habitat à la Providence, qui va nous parler donc plutôt de la partie légale de la mise en place de ce droit de vote. Puis ensuite, c'est Bruno qui nous parlera plutôt de la mise en pratique au sein de la structure. Et enfin, nous aurons les témoignages d'Olivier et d'Oran donc sur ce sujet du droit de vote pour les municipales, pour les personnes en situation de handicap. Donc, rebonjour Alan Soulas.
Rebonjour.
Peut-être qu'on peut commencer par une petite présentation de la structure la Providence et de votre travail au sein de cette structure.
Donc la Providence, c'est une structure qui commence à être assez ancienne et assez implantée au niveau du bassin, puisqu'elle date de 1865. Alors, au début, il y avait un aspect religieux, ça a été créé par des sœurs pour des enfants atteints de sourdité. Et puis au fil des années, ça a évolué avec un IME et puis plus récemment par l'acronyme, c'est l'IRESDA. C'est un institut régional d'éducation d'enseignement spécialisé pour déficients auditifs et HA pour handicap associé. Et puis, dans la continuité de l'évolution, il y a eu des secteurs adultes qui se sont développés. Donc, ce que je disais tout à l'heure, foyer de vie, foyer d'hébergement, foyer appartement et service d'accompagnement à la vie sociale, SAVS. Et en parallèle, un pôle travail, ESAT, qui, depuis 2019, est sur Châteauneuf-sur-Isère. Auparavant, il était au niveau de Saint-Laurent.
Il n'y a plus du tout de partie ESAT à Saint-Laurent.
Il y a une partie, ce que Oran parlait tout à l'heure, donc une partie espace vert et un ESAT cuisine aussi, voilà, qui reste pour le coup basé à Saint-Laurent, mais toute la partie sous-traitance industrielle est à Châteauneuf-sur-Isère. Donc tous les jours, il y a une navette qui récupère, donc notamment Olivier, pour ramener à Châteauneuf-sur-Isère.
Et pour des activités, donc vous disiez de sous-traitance industrielle.
Oui, donc avec c'est ça, c'est Olivier, vous pouvez peut-être vous expliquer mieux que moi ce que vous pouvez faire.
Ouais.
On y reviendra tout à l'heure. Okay. Ou si vous souhaitez maintenant expliquer un petit peu les activités de l'ESAT.
Tout à l'heure. Pas de problème. Je vous explique au début, en sous-traitance, moi je faisais le plus, je travaillais dans une salle de la pharmacie avant. C'est pour les boîtes des prises de sang. C'est des emballages secondaires avant. Et que je faisais ça, J'ai rempli les feuilles à compter, la balance, mettre les palettes, tout ça. Et après c'est tout arrêté parce que c'est tout envoyé à étrangers. C'est dommage pour moi.
Et maintenant?
Bah, du coup, c'est pas grave. Du coup, maintenant, je suis dans le atelier. J'ai fait plusieurs de postes. J'ai fait la balance, je pèse les soudades, des pizzas en forme. Et aussi, je fais aussi la machine ultrason. C'est pour les charnières. C'est pour les portes, en fait.
D'accord, des choses vraiment très différentes, voilà. Donc des activités.
Et en plus, des autres collègues, ils font la menuiserie, c'est pour les fenêtres.
D'accord.
On fait plein de choses là.
Et alors, ça concerne combien de résidents de la Providence?
En tout, aucune idée.
Il y a 41 travailleurs en sous-traitance à l'ESAT. Une grande partie quand même sont institutionnalisés au niveau de la Providence. Alors le nombre exact, moins que vous l'ayez vous, Bruno.
Non, je me souviens pas exactement, mais voilà, c'est ce qui expliquait Alan, c'est qu'il y a une partie des gens qui sont résidents à la Providence qui travaillent à l'ESAT, parce que c'est un travail, et puis les résidents sont rémunérés pour ce travail-là. Et une partie de gens qui viennent de l'extérieur, qui sont pas forcément en institution.
Ça peut être, ils peuvent habiter dans leur propre logement sans suivi social, et pas forcément, s'il y en a, pas forcément exercé par la Providence. Ça peut aussi être par d'autres associations ou des choses comme ça.
Et alors, si on reste un petit peu sur les chiffres, mais qu'on passe donc au sujet plutôt du droit de vote, donc pour les personnes en situation de handicap, ça va concerner combien de personnes au sein de la Providence à peu près ?
Alors nous, tous les résidents majeurs ont la possibilité de pouvoir s'inscrire sur le droit de vote. C'est deux lois, une loi du 11 février 2005 qui parle de l'égalité des chances et de la participation à la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Et cette loi a été renforcée par la loi du 23 mars 2019 qui précise que les personnes en situation de handicap, même sous tutelle ou curatelle, sont des citoyens comme les autres, donc du coup ont les mêmes droits et devoirs que tout le monde.
Mais finalement, depuis 2005, c'était déjà possible?
Oui, à partir de 2005, c'était possible, ou par contre, il fallait demander l'autorisation quelque part à son mandataire judiciaire qui pouvait valider ou pas valider. Et ils ont constaté qu'il y avait des abus de la part de mandataires, alors de façon vraiment nationale. Hein. Et c'est pour ça que cette loi a été renforcée en 2019 pour favoriser vraiment à tout le monde et rappeler qu'en fait c'était des citoyens lambda. Enfin, comme voilà, la notion de handicap n'existe pas en fait dans le droit et les devoirs. Et voilà, donc c'est venu renforcer ça. Et à partir de là, avec l'ensemble de l'équipe du service Habitat, on a été travaillé sur le droit de vote, qu'est-ce que c'était, comment on pouvait le mettre en œuvre, et solliciter l'ensemble des résidents pour recueillir leur envie ou pas de s'inscrire sur des listes électorales.
Alors vous indiquez que ça concernait à la fois les personnes sous curatelle et sous tutelle. Peut-être qu'on peut juste faire un petit rappel pour nos auditeurs et nos auditrices pour savoir la différence.
Une personne sous tutelle a obligatoirement besoin de son mandataire judiciaire du coup pour une grande partie des actes, achats, choix de partir en vacances et tout ça. Là où au niveau curatelle c'est beaucoup plus allégé et c'est beaucoup plus défini, où le curateur est juste garant en fait de qu'il aurait suffisamment d'argent pour payer tout ce qu'il a à payer.
Et donc vous parliez donc de cette loi européenne en 2019 qui renforce donc le principe du droit de vote pour les personnes donc sous curatelle ou sous tutelle. Elle n'a pas eu le temps d'être appliquée, j'imagine, en tout cas au sein de la Providence, pour les municipales de 2020.
Alors non, pour les municipales de 2020, non, avec le contexte en plus particulier mis en place avec lié au confinement et à la Covid. Et donc du coup non, en tout cas c'est une grande première au sein de la Providence. De permettre de façon très élargie, parce que c'était il y en a quelques-uns qui votaient, mais c'était très très isolé, et donc là de façon très élargie ça a ramené des questions très intéressantes sur comment ne pas influencer au moment où on pouvait présenter les professions de foi, quel accompagnement on pouvait faire, jusqu'où on pouvait aller, voilà, ça a ramené des échanges riches et intéressants.
Oui, ça questionne en fait le principe même aussi du droit de vote, de savoir qui peut voter, quelles sont les conditions ou les critères entre guillemets de pour exercer son droit de vote. Et effectivement, après, j'imagine que l'application a dû poser beaucoup de questions. Là. Donc là, vous parliez de la présentation des programmes. C'est quelque chose que vous avez mis en place dans la structure ?
Alors, on n'a pas reçu les deux professions de fond en même temps. Donc du coup, ça n'a pas encore été abordé avec les raisons, parce qu'on voulait vraiment ramener les deux en même temps pour pas en favoriser une plus qu'une autre. Et les professions de foi sont pas forcément adaptées à la compréhension, mais de tout à chacun à des moments. Donc du coup, un travail a été fait par des professionnels pour les rendre en plus en falque, donc en facile à lire et à comprendre. C'est un outil, voilà, pour permettre avec des phrases très simples, et surtout ça enlève toute interprétation possible au niveau tout à chacun pour les professions de foi devrait s'en servir, parce que pour le coup ça enlève vraiment l'incitation. Et donc du coup il y a ce travail là et en plus nous on rajoute la sourdité dans l'accompagnement. Et donc on a au sein de la Providence, on a un professionnel qui fait office d'interface, donc qui s'occupe de retraduire en fait tout ce que nous on peut dire. Et voilà, il va vraiment retraduire, mais en façon parlée, différence de l'interprète qui va attendre et qui va re-ramener, resynthétiser les choses. Là, il explique vraiment tout au fur et à mesure comme c'est ramené. Et donc du coup, il y a deux interventions qui sont prévues pour l'ensemble des résidents, qu'ils soient inscrits ou pas, qu'ils souhaitent voter ou pas. Voilà. Après, ils viendront pour justement prendre le temps d'expliquer ces professions de foi et les rendre accessibles à tous, pour voilà, que les lecteurs ne soient pas favorisés par rapport aux non-lecteurs, les entendants par rapport aux non-entendants. Et voilà, on essaye de faire en sorte d'être on sera le plus neutre possible, et on va vraiment se baser sur des choses factuelles. On doit rester neutre dans cet accompagnement-là. Et au niveau de la loi, notre accompagnement s'arrête au début de l'isoloir. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accompagner jusqu'au bureau de vote pour les résidents qui le souhaitent. Encore une fois, ils peuvent y aller. Ceux qui souhaitent y aller tout seuls pourront y aller tout seuls. Ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Mais pour ceux qui sont plus en difficulté, on pourra les accompagner à rentrer dans le bureau de vote, récupérer tous les bulletins, l'enveloppe, et les accompagner jusqu'à l'isoloir. Et à partir de l'isoloir, on n'a plus le droit de rentrer ou de toucher l'enveloppe à la sortie de l'isoloir jusqu'à l'urne. Voilà, c'est au niveau pour rester au niveau du cadre de la loi, mais on peut pas.
Oui, l'idée, ce que je comprends, c'est que c'était à la fois de s'adapter donc aux différentes particularités des résidents pour leur offrir en gros le même droit à tous, mais à la fois de rester en retrait au moment de faire ce choix politique quelque part qui appartient à chaque individu.
Le vote est quelque chose de secret. Donc on ne peut pas on n'a pas le droit de s'initier dans ce parti secret là. Donc c'est leur propre choix et leur propre conviction, et ça leur appartient. Et puis ce qu'on a pu aussi dire, c'est que même si un résident veut aller voter, rentre dans le bureau de vote et au dernier moment change d'avis, il change d'avis, c'est pas grave. Voilà, il y a uniquement ceux qui sont pas, parce qu'il y en a qui ont refusé de s'inscrire. Ceux qui ont refusé de s'inscrire, par contre, pourront pas changer d'avis au dernier moment. Mais voilà, on est vraiment sur les mêmes droits et devoirs que tout le monde. En fait, ce sont des citoyens comme tout le monde.
Et alors, est-ce que beaucoup d'entre eux ont fait le choix de s'inscrire sur ces listes électorales ?
Une bonne majorité ont fait le choix de s'inscrire.
C'est 13 résidents sur 16 qui ont choisi de s'inscrire sur les listes électorales.
Sur le foyer de vie, il y en a 4 sur 8 qui sont inscrits. Et le foyer appart, là où il y a le plus d'autonomie, et on pourrait dire, c'est eux qui en ont le moins, où ils sont 5 ou 6 sur 25 au total. Donc c'est là où ça a été le moins cette envie de voter. Les foyers appart, c'est des logements diffus. Nos bureaux sont sur Saint-Jean-en-Royan. Et après, ils votent à différents bureaux de vote. Donc Saint-Jean, alors on reste sur le Royan quand même. Hein. Saint-Jean, non, il y a un résident à Romans. Saint-Nazaire, Saint-Laurent, Saint-Thomas. Enfin voilà, ça reste assez diffus. Mais donc, ils ont pas. On aurait mis les mêmes choses en place, même s'il y aurait eu plusieurs listes à mettre en falque, hein, que ça soit celle de Saint-Jean, celle de Saint-Thomas, celle de Saint-Nazaire. ou celle de Romans, on aurait fait, parce que ça fait partie de nos accompagnements qu'on doit mettre en place pour favoriser ce, ce droit et cette accession à tous.
Et est-ce que vous avez été en contact avec les communes, les différentes communes, pour organiser ce droit de vote ?
Alors moi, pas directement, mais par contre, les, l'équipe du foyer d'hébergement et du foyer de vie, parce qu'elle y partage le bâtiment, ont été en contact avec la mairie de Saint-Laurent, justement, pour récupérer, avoir accès aux, aux locaux, ou en tout cas à une urne et à un isoloir, un peu avant, pour faire une fausse sélection, en fait, pour pouvoir vraiment prendre le temps à tout le monde. Et la, la commune de Saint-Laurent a joué le jeu aussi derrière, et je trouvais ça plutôt, plutôt bien en termes de partenariat et vraiment et de favoriser aussi ce, 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 ce droit-là.
Bruno, c'est vous qui avez été en contact du coup avec le, la mairie ?
Entre autres, oui. Et comme le disait très bien Alan, la mairie a joué le jeu. Et puisque il y a une association qui aide et qui défend les personnes en situation de handicap, qui s'appelle l'UNAPI, et qui a début janvier alerté toutes les mairies de France en disant parce que enfin, pour l'accès pour les personnes en fauteuil roulant, pour l'accès au vote, il y a des textes de loi qui existent et qui jusqu'à maintenant sont pas forcément respectés suivant les communes. Pour en revenir au droit, c'est donc le droit à s'inscrire sur les listes électorales, ce qui permet de voter. Il faut savoir que dans quasiment tous les pays occidentaux du monde entier, le droit de vote est acquis depuis très très longtemps par les personnes en situation de handicap. On peut citer le Canada où il n'y a pas de différence entre une personne handicapée et une personne non handicapée. Aux États-Unis, c'est un peu particulier parce que c'est suivant les États, mais il y a une majorité d'États qui, malgré tout, permettent le droit de vote aux personnes en situation de handicap. En Europe, c'est parce que c'est au départ une loi européenne qui demande à tous les États européens donc de se mettre en conformité avec cette loi-là. Et la France est l'une des dernières sur le noyau de l'Europe. Voilà. Après, les autres pays qui sont revenus à l'Europe après n'ont pas encore fait cette démarche-là. Mais sinon, on peut citer l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse qui fait pas partie de l'Europe, mais l'Espagne ou l'Italie aussi, où les personnes en situation de handicap ont le droit de vote.
Et alors, par exemple, au Canada, aux États-Unis, ça fait combien de temps ? Ça fait plusieurs décennies que ce droit est appliqué ?
Au Canada, j'ai pas vérifié, mais ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas de distinction entre les personnes en situation de handicap et...
Le Canada est quand même précurseur sur au niveau du handicap, sur toute forme de handicap, que ça soit l'autisme, la trisomie, la surdité, enfin vraiment précurseur au niveau mondial sur ce qu'ils peuvent mettre en application, tant au niveau des accompagnements que des retours qu'ils peuvent faire, ou l'ouverture et l'accessibilité aux droits, ou l'accessibilité à des lieux pour des personnes en fauteuil roulant ou des choses comme ça. Ils sont vraiment vraiment précurseurs au niveau mondial, et d'ailleurs, beaucoup de pays s'alignent sur eux. Ils essayent, et si ça marche, au bout de 5-10 ans, les pays vont souvent l'adopter. C'est ce qui s'est passé pour le droit de vote au niveau des États-Unis, où le Canada a arrêté cette séparation. Personne en situation de handicap, peu importe le type de handicap, hein, et les personnes sans handicap, c'est le Canada qui a été précurseur. Et après, les États-Unis en ont découlé par rapport à tout ça. Mais vraiment, en termes de niveau prise en compte du handicap, le Canada est la référence mondiale.
Et simplement pour préciser, j'ai une petite question qui me vient aussi, ça concerne toutes les élections, pas seulement les élections municipales, cette loi européenne.
Ah oui, quand on est inscrit sur une carte électorale, c'est pour toutes les élections, de la municipale jusqu'aux européennes, je crois que ça doit être...
Et donc pour cette fois-ci, c'était la première fois donc, que le processus était mis en place, mais j'imagine que ce sera plus facile les autres fois d'appliquer au sein de la Providence ce droit de vote.
Il y aura moins d'inscriptions en mairie à faire déjà, parce qu'ils sont déjà inscrits. Et puis il faudra juste rajouter ceux qui veulent se voter parce qu'ils ont vu les autres voter. Moi je tiens aussi à préciser sur le travail énorme qui a été fait pour le nombre d'inscriptions, puisque par rapport aux chiffres que Bruno donne, 13 résidents sur 16, eh ben, il a fallu aller les inscrire un par un aussi en mairie. Donc ça a été aussi chronophage Et ça a pris beaucoup de temps. Et on voit sur d'autres services, 4 sur 8 aussi, ça prend aussi du temps. Enfin, voilà. Donc c'est aussi moi, je tiens à le dire, en tout cas, le boulot énorme entre le peu de réactivité qu'il y avait entre où nous, on a commencé à en parler pour le mettre en application au mi-janvier, et la fin des inscriptions était liée au 4 ou 5 février, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, il y avait 15 jours, 3 semaines pour arriver à recueillir qui voulait voter, expliquer ce que c'était que des élections, recueillir qui avait envie, mettre en œuvre comment on accompagne, recueillir tout ce qu'il fallait. Enfin, ça a été un travail énorme sur un délai très court. Et donc, du coup, c'est aussi important de le redire.
Bruno, donc, vous qui êtes aide éducateur spécialisé à la Providence, vous pouvez peut-être nous décrire un peu plus, justement, ce processus, cette mise en application concrète. Comment ça s'est passé?
Alors, dans un premier temps, on a parlé en utilisant des falques. On a expliqué tout d'abord ce qu'est
être... Donc, des falques, si c'est possible de rappeler juste l'acronyme.
Facile à lire et à comprendre. Et des pictos. Les pictos, ce sont des dessins qui sont ou en couleur ou en noir et blanc, ou ça peut être des photos aussi. D'abord, ce qu'est être citoyen. Ça fait partie de ses droits de citoyen que de pouvoir s'inscrire sur une liste électorale. Donc, dans un premier temps, on leur a expliqué pourquoi il fallait, pour pouvoir voter, puisqu'ils avaient le droit de vote, s'inscrire sur une liste électorale, puisque c'est la première démarche à faire. Ensuite, on est allé, donc on les accompagnait. Quand ils ont expliqué, parce que nous, on n'est pas du tout sur un jugement moral. Nous, la loi nous dit qu'il faut faire telle chose, et on l'applique. Notre travail, c'est d'accompagner des personnes en situation de handicap, que ça soit pour le droit de vote, que ça soit pour la gestion de leur argent, pour la vie quotidienne.
Juste pour compléter, et en faisant tout ce travail-là, on s'est aussi aperçu qu'on parlait beaucoup de leurs devoirs, de ce que eux devaient faire envers nous, envers les AT, pour ce qu'ils travaillent, pour la plupart, envers entre eux, enfin toutes ces choses-là, et qu'en fait on parlait jamais de leurs droits non plus. Donc voilà, ça a été aussi l'occasion de début de ces échanges, que les équipes puissent s'apercevoir, et je me mets dans les équipes, hein, qu'on puisse s'apercevoir, c'est mieux, que en fait on parlait jamais de leurs droits, mais toujours de leurs devoirs, et du coup voilà, ça permet de vraiment les resituer en tant que citoyens, avec leurs droits et leurs devoirs,
Les remettre, comme on dit dans notre jargon, au centre du projet. C'est bien le résident et pas les gens qui sont autour d'eux. Ensuite, on les a accompagnés pour que chaque résident qu'il souhaitait aille s'inscrire sur les listes électorales à la mairie. Donc, comme tout un chacun, il y a un formulaire à remplir, présenter une pièce d'identité. Et puis, il y a une petite dizaine de jours, ils ont reçu leur carte électorale. Et aujourd'hui, comme le soulignait Alan il y a quelques secondes, on travaille sur le programme de chaque liste. Donc on n'a pas pu commencer, donc on va commencer puisqu'on vient de recevoir la deuxième profession de foi. Donc on va travailler là-dessus à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi prochain. Donc voilà, c'est un peu une course contre la montre, mais c'est intéressant et très important pour les résidents.
Et c'est plutôt un travail en groupe ou un travail individuel avec chaque résident?
On va dire en petit groupe, et après, notre travail, c'est entre autres aussi de s'assurer que les personnes qui sont en face de nous, elles aient compris l'information qu'on leur a donnée. Donc voilà, il y a deux, on donne l'information et après on vérifie que l'information a été bien comprise, toujours en toute objectivité. Mais voilà, ça c'est notre métier, mais en général, c'est pas que par rapport au vote non plus.
Ça va être fait en c'est ce que je disais tout à l'heure, en deux temps, où le premier temps où il va y avoir une présentation avec une interface sur deux petits groupes différents, parce qu'ils n'ont pas forcément tous le même niveau au niveau des signes et de la compréhension au niveau des signes. Mais et après, individuellement, il va falloir justement, comme le disait Bruno, s'assurer qu'ils aient compris. Et donc ça va être soit certains vont venir solliciter les professionnels, et puis ceux qui viennent pas solliciter, aller à leur rencontre pour s'assurer qu'ils aient bien compris. Mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, l'intervention générale, elle peut concerner tout le monde, même ceux qui sont pas inscrits au contraire, si ça peut leur donner envie pour les prochaines élections d'aller s'inscrire et de participer, parce que sur du court terme, il y a les élections présidentielles dans un an aussi. Donc voilà, c'est un peu aussi. Alors il y a d'autres enjeux, effectivement, pour eux aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est l'importance aussi de reprendre et puis de reprendre aussi à quoi sert chaque élection, chaque. Donc voilà, c'est très enrichissant et très chouette. Et puis pour nous, ça nous fait des piqûres de rappel aussi à des moments pourquoi, mine de rien. Donc c'est plutôt bien.
Utile pour tout le monde. Mais et de manière globale, donc vous disiez donc qu'une majorité de résidents avait quand même choisi donc de s'inscrire. Est-ce que leur réaction a été plutôt alors on va prévenir au témoignage d'Olivier et Oran pour entrer plus dans le détail. Mais est-ce que globalement la réaction a été positive, enthousiaste ou plutôt un peu réservée
Non, assez enthousiaste, même si notre rôle, c'est pas de leur demander pourquoi, mais bien est-ce qu'ils veulent. Et notre rôle s'arrête là. Au-delà, après, je veux dire, enfin, on doit être dans l'objectivité la plus, donc on a, il y a absolument aucune raison qu'on pose la question pourquoi vous voulez aller voter. C'est, vous voulez vous inscrire sur la liste électorale ou pas. Et le jour du vote, ce sera la même chose. Ils auront leur carte électorale. L'organisation, je peux en parler un peu vite fait, du jour du vote, ce sera les résidents partiront, parce qu'ils sont en capacité d'aller du foyer d'hébergement à pied jusqu'à la mairie. Là, un éducateur les attendra parce que ça reste quand même un moment à la fois solennel et qui est important. Et c'est bien que les personnes soient, comme la loi le permet, accompagnées s'ils le souhaitent. Et voilà, à partir de là, on a des résidents qui vont partir en week-end en famille et qui donc désirent ne pas voter ce jour-là, parce que pour eux c'est plus important, mais c'est leur propre choix.
Il y en a certains qui ont aussi fait le choix de ne pas partir en famille pour aller voter.
Exactement.
Justement. On a aussi la situation inverse où donc il y a vraiment un engouement, en tout cas autour de ces élections. Ça fait discuter, ça provoque des discussions entre les résidents entre eux et les résidents avec les professionnels ou avec leur famille aussi, mine de rien, et c'est plutôt intéressant.
Et ils sont déjà un peu formés au vote à travers notamment le CVS, mais voilà, ils ont déjà le principe du vote est connu. Ce qui nous inquiétait le plus, c'est que jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'une liste, donc c'était difficile. Et puis, avec la deuxième liste, il y a réellement un choix. Et puis, qui va nous préparer pour les élections présidentielles, parce que là, il va y avoir peut-être 12, 15 listes, où ça va être, en termes de temps et d'explication, beaucoup plus long.
Donc un premier test, quelque part, avec ces élections.
Exactement.
Et pour rebondir sur ce que disait Bruno, et au sein même de notre association, mais même de niveau de toutes les associations, il y a ce qui s'appelle un conseil à la vie sociale, qui nécessite que des résidents se présentent et soient élus aussi par d'autres résidents pour les représenter sur cette instance-là. Donc c'est déjà des instances qui... Enfin, le vote, il est connu, même s'il n'y a pas le côté solennel qu'on retrouve sur les élections municipales, présidentielles ou autres. Mais voilà, donc il y a déjà... C'est déjà mais du coup, ça permet de faire des piqûres de rappel aussi sur ce pourquoi on vote et qu'il y a différents types de votes différents, et voilà.
Oui, différentes échelles aussi.
C'est ça.
Alors Olivier, je vois que vous consultez l'une des listes que vous avez sous les yeux, le programme d'une des listes. On va peut-être passer à votre témoignage. Donc Olivier Ferrier, qui est résident à La Providence, mais qui est également, donc je le signale, bénévole à Radio Royan-Vercors, qui propose une émission qui s'appelle Les Compères.
Oui, c'est ça.
Peut-être que Olivier, vous pouvez commencer par présenter Les Compères, juste pour ceux qui voudraient écouter. Qu'est-ce que c'est que cette émission ?
Ça passe très bien.
Oui, ça fait plusieurs années que vous la...
Oui, on fait tous les mois. Le prochain, c'est le 25 mars.
Et c'est sur quel sujet ?
On parle des alentours.
Des alentours ?
Des alentours d'ici ou ailleurs. Et après, on a une pause pour une petite musique. C'est moi qui apporte le CD de chez moi. Et après, on parle du sport, du rugby, le foot.
D'accord, donc les animations, la musique, le sport, des sujets assez variés, donc à retrouver dans l'émission Les Compères, donc qui est une émission mensuelle sur les ondes de Radio Royan-Vercors. Et si on repasse à notre sujet du jour, Olivier, donc vous vous êtes présenté brièvement tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut revenir là-dessus. Où est-ce que vous vivez Est-ce que ça fait longtemps que vous vivez à La Providence
Depuis 1996.
Et vous travaillez, donc vous disiez, à l'ESAT de Châteauneuf?
Avant, au début, j'ai fait un stage. Je suis embauché en 87, j'étais en menuiserie. À Saint-Laurent-Royan, c'était... une ferme, en fait, avant. Avec Luc Robert, avec Julien Bossy, avant.
Et on n'en a pas parlé, mais malheureusement, l'atelier menuiserie a dû fermer suite à un départ en retraite. Donc, ouais, et ça. Le professionnel n'a pas pu être remplacé, donc du coup, il a fallu retrouver... un autre lieu de travail à pas mal de résidents, malheureusement.
Et après, j'étais à la zone industrielle vers le terrain de foot à côté de Barakan. C'était aussi un CAT avant. Et je faisais aussi la menuiserie avant. Et en plus, ils ont fait un saut de danse.
D'accord.
Et du coup, c'était fermé. Et même, je suis allé derrière le cimetière aussi, c'est pareil. Là-bas, c'est un CAP. Et du coup, c'était fermé. Et du coup, là, ça fait construction. Ils ont construit un grand bâtiment, un château sur l'Isère. Voilà.
D'accord. Donc, voilà pour votre parcours professionnel. Et,
donc, juste peut-être préciser, Olivier, que du coup, vous n'êtes pas... Vous habitez dans votre propre logement?
Oui.
Vous n'êtes pas...
Oui, au début, j'étais avec mes parents. C'était des longues dates. Hein. Alors, j'étais habité à Saint-Hilaire avec ma famille. Et après, j'étais habité aussi à Saint-Hilaire-Royan au camping municipal. C'est mes parents qui tiennent le camping. Et maintenant, ils ont pris leur retraite. Et nous, maintenant, on habite à Saint-Thomas-Royan. Et en plus, hélas, c'est que mes parents, ils ont quitté. Et j'ai perdu ma mère, c'était en 2011. Et elle n'a pas pu en profiter à sa retraite. Et après, c'était mon père, c'était en 2019. Il a fait une chute mortelle. Et maintenant, j'ai vécu tout seul.
Donc vous avez votre appartement à Saint-Thomas-en-Royan.
Oui, et en plus, moi, je suis suivi par mes frères et ma sœur.
Et accompagné, du coup, par le SAVS, donc Service d'accompagnement à la vie sociale.
Voilà.
Et alors, concernant le droit de vote, Olivier, est-ce que c'est la première fois que vous allez voter?
Non, c'est pas la première fois que j'ai fait tout... J'ai fait toujours ça.
Depuis, donc, ça fait plusieurs élections que
oui.
Vous avez voté?
J'ai fait plusieurs élections, j'ai fait des présidentielles... Des fois, on a aussi. On peut voter aussi pour la gauche et la droite, aussi. Et aussi, les législatives, les députés. Il y a toutes sortes à voter.
Donc, puisque le droit de vote est possible, donc on l'a rappelé tout à l'heure, depuis 2005, pour les personnes donc, qui sont sous curatelle ou sous tutelle, qu'est-ce que ça vous a fait de voter les fois précédentes? Qu'est-ce que vous en pensez?
Avant, c'était possible de voter si le juge le mentionnait au niveau de l'ordonnance de tutelle.
Et avant 2005, même.
Avant 2005. Donc, si le juge ne disait rien, ils n'avaient pas leur droit de vote. Et si le juge me mentionnait possibilité de maintien du droit de vote, c'était possible. Donc il y avait très peu qui le mentionnaient, très rarement, mais en fait c'était aussi possible avant 2005 sous mention du juge.
Et alors Olivier, qu'est-ce que ça vous apporte d'aller voter?
Pour voter c'est très important, que ce soit. Pour moi c'est bien pour voter, et si on vote pas, ça fait un peu difficile, et du coup, c'est mieux le faire.
C'est mieux d'aller voter.
Ah oui, bien sûr. Et ça, c'est très important pour nous tous, pour tout le monde.
Et est-ce que vous y pensez? Donc, à l'avance, je vous voyais regarder le programme. Est-ce que vous y réfléchissez?
Et ça, c'était vers chez moi, dans mon quartier, à Saint-Thomas-en-Orient, de la liste. Et on est 15. Mais des images et du prénom.
Et alors, pour faire votre choix, est-ce que vous en discutez avec d'autres gens, par exemple?
Non. Et c'est que moi.
D'accord. C'est un choix personnel.
Exactement.
D'accord. Et donc, le jour du vote, comment vous allez vous organiser pour y aller?
Moi, pour y aller, avant, à la mairie de chez moi, j'ai ma voiture sans permis. Il faut y aller un matin.
Et vous irez seul?
Oui. Et je me débrouille, je suis autonome.
Eh bien, merci beaucoup, donc, Olivier Ferrier, donc, pour ce témoignage donc, sur le droit de vote, pour, en l'occurrence pour les élections municipales 2026, mais que vous avez déjà exercé du coup, à de nombreuses reprises
oui, c'est ça.
Au préalable. Et on va maintenant échanger avec Oran Ouyouk.
1990, ça n'a rien. Stage.
Donc vous êtes également résident à la Providence.
1990.
Oui, je vous laisse vous présenter, allez-y.
Jusqu'à 2001. Et après, il y a plus de travail. Il y a 20 ans, jusqu'à je cherche le travail, j'étais à Vienne. À Vienne, il y a un problème avec ma famille. J'ai mon père de Capé du Bois. Petit, je me rappelle, a capé beaucoup de fois.
Votre père coupait du bois?
Ah, a capé beaucoup de fois. Il a dit, va chercher le travail, va chercher le travail. Jusqu'à 2007, il a commencé à travailler. Là, jusqu'à Potavet, travailler à l'Espaver, Carlor, repassage. Après, il va travailler à Malissel, il travaille à aux pompes, le carton, vider le carton, puis le carton, le carbone. Après, j'ai travaillé à Saint-Maurice-sur-Isère, Sacol, l'Espavère, beaucoup de fois, le sac de pommes, beaucoup de fois travaillé. Après, j'ai revenu ici, c'est 10 décembre 2021, j'ai fait un stage embauché.
Embauché.
J'ai visité le stage, 13 décembre, j'ai travaillé à Château-sur-Isère. Voilà.
D'accord.
Après, j'avais travaillé à Espavère, août 2024, j'avais travaillé à Espavère. J'ai travaillé, et après, j'ai commencé le stage à Espavère, et le stage de cuisinière. Voilà. Après, j'ai voté au Saint-Laurent-Royen. J'ai pu voter, mais avant, c'est difficile de voter, mais j'avais né en Turquie.
En Turquie,
là-bas. Il y a c'est longtemps, j'ai venu en 1981 en Turquie. Et revenu en France en septembre 1984.
Vous êtes en France depuis 4 ans.
Il n'y a rien à faire et ça.
D'accord. Voilà. Et donc là, vous disiez que vous aviez déjà voté à Saint-Laurent.
Jamais.
Non, jamais. Ce sera jamais. La première fois.
Première fois.
Que vous voterez à Saint-Laurent.
J'ai voté à Renop.
D'accord.
Déjà votre tour en up, voilà.
Juste pour vous expliquer rapidement la situation de Monsieur Ouyouk, donc il, comme il vous l'a dit, il est né en Turquie, il avait la nationalité turque en 2023. Il avait fait la demande pour être naturalisé français, il l'a obtenu. Et a priori, de fait, il a reçu tous les papiers, dont la carte électorale. Donc lui, il n'a pas eu besoin de s'inscrire. Il a été, de fait, inscrit. Voilà, parce qu'il était naturalisé français.
Ah ben, c'est ça, il est parti en Turquie en vacances, super.
Et vous êtes résident à la Providence, dans quel cadre? Dans un appartement
ou
dans
le foyer.
Dans le foyer de vie
Foyer d'hébergement.
Ah voilà. D'accord.
Ben, ça.
Et pour voter cette année, comment vous allez vous organiser?
Je vais faire tout seul. Oui. Autonome.
D'accord.
Voilà.
Vous allez y aller à pied?
À pied, c'est pas loin.
Oui.
Je vais essayer de lire, de se compter, de se rire. Voilà.
Et est-ce que c'est important pour vous d'aller voter? Oui.
Une fois, première fois.
Première fois?
Voilà. Oui. Faut parler. Oui. Voilà. Moi, c'est mal attendant. Moi, tu sourds, moi, tu entends. Voilà, c'est ça. J'ai né ça, cette maladie.
D'accord.
Voilà, c'est ça.
Et pour préparer votre vote, comment vous faites?
Je n'ai pas donné de photos de Saint-Laurent. Je n'ai pas reçu encore.
Vous n'avez pas encore reçu les
programmes? Je n'ai pas reçu encore.
Oui, voilà. Alors on est le 5 mars, ça devrait arriver bientôt.
Voilà, c'est ça. Je n'ai pas reçu qui les personnes. Il y a un homme ou une femme, je ne sais pas qui. Voilà, combien de personnes.
Oui, vous attendez les programmes pour décider de votre vote.
Voilà, c'est ça. Ma famille votée, Turquie, jamais.
Vous n'avez jamais voté en Turquie?
Jamais.
Ce sera votre premier droit de vote.
La première fois d'y aller à Varsovie, jamais.
D'accord,
voté.
De votre vie, ok.
Bah. Monsieur Ouyouk a déjà voté deux fois pour les législatives et pour les présidentielles précédentes.
En France, ah oui, en voilà. France, vous vouliez dire que c'est en Turquie que vous aviez jamais voté, mais en France, donc vous avez déjà exercé deux fois votre droit de vote.
Voilà.
Comment ça s'était passé?
Ça va.
Oui.
Bien.
Tout s'est bien passé?
Bien passé. La présidence, je sais pas, c'est qui? Présidence 2027.
Oui, vous avez encore un peu de temps pour décider.
Voilà. Ça. Après, ça verra bien. Après, c'est ça. Hein. Après, ben, je vais aller faire la formation de Hospital Illustrit. Hospital Illustrit, il y a eu. Après, il y a la formation de cuisine. C'est la diplôme, il y a eu. Et après, j'ai fait la cuisine. Après, il y avait la vaisselle. Et ça. Voilà.
OK. Eh bien, merci beaucoup, donc, Oran Ouyouk, qui témoignait donc, notamment sur le droit de vote donc, qu'il exercera, donc, pas pour la première fois, mais pour les élections municipales de 2026. Est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de nos échanges? Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous souhaitiez rajouter?
Oui, j'ajoute en plus, pour les votes, c'est du 15 au 22 mars, et on va avoir des feuilles de ça.
Le premier tour, c'est le deuxième tour.
Qu'on va voter, normalement, il ne faut pas rayer. Si on raye, il est annulé.
Oui, Olivier, ça fait partie des changements. Voilà. C'est nouveau, donc c'est très bien de le rappeler. Effectivement, on ne peut plus rayer de candidats sur la liste.
Avant, on pouvait rayer. Maintenant, moi, j'ai une sœur, elle m'a dit elle travaille dans la commune à Miry, à Saint-Lazare-Royan. Il ne faut plus le droit de rayer. Donc, c'est comme ça.
Tout à fait, c'est toujours bon de le rappeler.
Voilà.
Eh bien, merci à tous. Alors, je rappelle qu'on était aujourd'hui en compagnie de plusieurs invités pour parler de la question du droit de vote des personnes en situation de handicap. Donc, plusieurs personnes de la Providence qui se situent donc à Saint-Laurent-en-Royans, qui est une association qui accompagne donc les personnes en situation de handicap. Et donc, je remercie Alain Soulas, qui est chef de service du service Habitat à la Providence.
Merci.
Merci également à Bruno Chepel, qui est AES, c'est-à-dire aide éducateur spécialisé à la Providence, donc depuis quelques années. Merci Bruno.
Merci.
Et merci également donc à Olivier Ferrier, qui est résident à la Providence, bénévole à Radio-Royan-Vercors.
Oui.
Et enfin, merci. À Oran Ouyouk, qui est également donc résident à la Providence.
Merci beaucoup.
Merci à tous.
Voilà.